le philosophe et le théologien ne sont pas des gens qui vont faire un travail qui n'est pas enraciné dans le sol empirique. Ce qui veut dire aussi que le philosophe et le théologien suivent une méthodologie rationnelle qui n'est pas simplement un pur discours coupé du reste. Alors ça, ça existe. Il y a des théologies arbitraires, il y a des pensées philosophiques déconnectées complètement du réel empirique, mais dans la tradition catholique et dans la grande tradition chrétienne, la philosophie et la théologie s'enracinent dans ce que Jean-Paul II appelle dans Fides et Ratio le fondement naturel du sens. Il y a quelque chose de la réalité que nous voyons qui est porteuse d'un sens. Il n'y a pas la réalité, puis un sens, vous voyez, qu'on parachuterait. D'accord ? Un peu comme si je disais, je vous vois, tiens, quel est le sens ? Eh bien, ce sont des créatures d'un géant martien bleu pâle qui mange du chocolat. Voilà. Donc ça, c'est le sens que je donne à mon exemple. Je vois en vous des créatures d'un grand monstre martien bleu pâle qui mange du chocolat. Voilà. Ça, c'est mon sens philosophique. D'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? C'est drôle, vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est bizarre, ça. Parce que moi j'y crois dur comme fer. Hein ? Un grand monstre qui mange du chocolat et qui vous a engendré. Hein ? Bon. Alors vous dites non. Bon. Alors pourquoi vous dites non ? Mais ça, c'est typique d'une pensée, voyez, qui peut être cohérente, parce que pour moi, ça peut être très cohérent de croire au monstre martien, etc. Et toute ma vie est déterminée par ça, et je ne prends pas le bus parce que le monstre martien me l'a dit la nuit, etc. Donc tout est cohérent, si vous voulez. Mais c'est pas parce que tout est cohérent que nécessairement c'est vrai. Vous voyez ? Il faut bien se mettre ça dans la tête. Regardez. Moi, je crois que quand je pousse sur le bouton, vous voyez, il y a des anges lumineux qui se précipitent dans les tuyaux et qui émettent de la lumière. Oui. Non, mais c'est vrai. Regardez. Ça, c'est un robinet d'anges lumineux. Je coupe le robinet, il n'y a plus de lumière. C'est normal. Les anges lumineux ne courent plus dans les tuyaux. J'ouvre, les anges courent dans les tuyaux et mettent de la lumière. C'est cohérent. En plus, c'est expérimenté. Et je fais l'expérience. Je coupe le robinet d'anges lumineux, il n'y a plus de lumière. J'ouvre le robinet d'anges lumineux, il y a de la lumière. Et j'ai même une preuve expérimentale. Mais ça, on rigole. Vous rigolez. Bon, vous avez raison. Mais en science, on peut avoir des choses comme ça, comme en philosophie. On peut inventer une belle théorie. Et en plus, on peut avoir des arguments pour dire que, empiriquement, ça fonctionne. Mais c'est pas parce que ça fonctionne que c'est vrai. Il faut réfléchir à ça. C'est pas parce qu'on fait une expérience et que ça donne le bon résultat que la théorie que j'ai pour expliquer l'expérience est correcte. Je termine, hein. Juste pour dire, il y a des théories cohérentes, parfois même vérifiées par morceaux, qui ne sont pas vraies et qui sont en déconnexion peut-être totale avec la réalité empirique. Ça, c'est pas le but de la philosophie et de la théologie chrétienne, et encore moins catholique. Parce que la philosophie et la théologie catholique partent du principe que ce que l'on dit en théologie et en philosophie, c'est pas arbitraire. C'est pas une construction de concepts liés à un petit groupe de privilégiés qu'on appelle les catholiques et qui croiraient, eux, que c'est Jésus-Christ qui s'est incarné, que Dieu a créé le monde, etc. Tandis que d'autres croient que c'est des grands martiens qui mangent du chocolat et qui, bon. Alors, quelle est la différence ? La différence, elle est énorme. Notre foi n'est pas basée sur une question de goût. C'est pas une question d'arbitraire. Il y a la prétention que ce qui est en jeu dans la philosophie, dans l'anthropologie chrétienne, dans la théologie chrétienne, n'est pas une question de goût. C'est quelque chose qui s'enracine profondément dans ce que Jean-Paul II appelait les fondements naturels du sens. Non pas que tout le sens serait dans le fondement empirique, mais le sens s'enracine. Vous voyez ? C'est pas une question arbitraire parce que ça s'enracine. C'est ce que j'ai voulu dire par là, ici. Et le but de la philosophie, et j'arrive à la question, j'ai pas oublié qu'il y avait une question, mais le but de la science et de la théologie serait d'élucider, de clarifier et de mettre en ordre, Des réponses à quoi ? À des questions de sens, justement. Donc, répondre à des questions de sens en les clarifiant, ok ? À partir de quoi ? Mais à partir de toute l'expérience humaine, de l'expérience scientifique, de l'expérience personnelle, etc. Et c'est ça qui fait la grande différence entre science et théologie, et même philosophie. D'accord ? En science, on met entre parenthèses la question du sens. En philosophie et en théologie, on cherche la réalité profonde dont ce que je vois est le signe, ou serait le signe. Ça va ? Alors maintenant, je prends la question. Oui.
Je comprends que vous dites
oui, tout à fait. Logiquement, non, vous avez tout à fait raison.
Oui.
Non, ce qui est vrai est cohérent, mais ce qui est cohérent n'est pas nécessairement vrai. Bien sûr. Donc, en fait, si quelque chose est vrai, d'accord, et si la théorie décrit le vrai, nécessairement, elle doit être cohérente. Hein? Donc, autrement dit, si il y a une vérité, alors la théorie qui en rend compte, d'accord, eh bien, elle doit nécessairement être consistante ou cohérente. D'accord ? Mais une théorie cohérente n'est pas nécessairement vraie, même si elle explique. Si. Exemple. En astronomie grecque, hein, dans l'astronomie grecque, on savait que toutes les étoiles ont des trajectoires semi-circulaires. Parfait. Hein. Toutes les étoiles, quand on regarde à l'horizon, toutes les étoiles ont ces beaux mouvements comme ceci, avec une perfection implacable. Hein? Bon. Maintenant, les Grecs, qui étaient de bons observateurs, il n'y avait pas la pollution actuelle, avaient remarqué que tous les astres n'ont pas ce comportement-là. Donc pratiquement tous les astres font ça, mais il y a des astres, Mars par exemple, qui certaines nuits peuvent faire ça. Je vais le faire en jeu pour qu'on le voit. Donc, Mars avance, et puis pendant la nuit recule, et puis fait comme ça. Donc, il y a un mouvement qui, à un certain moment, est rétrograde. Donc, l'astre revient en arrière, et puis repart en avant. Alors ça, c'était tout à fait troublant pour les Grecs. Et en fait, c'est lié simplement au fait que les astres qui sont plus loin que l'orbite de la Terre avancent plus lentement. Et donc, par rapport à la Terre, à un certain moment, la Terre va plus vite que ses astres. Et donc, il peut y avoir un mouvement relatif rétrograde. Bon. Mais ça, ils ne savaient pas, puisqu'ils partaient du principe que la Terre était au centre de l'univers. Donc, ils ne pouvaient pas s'imaginer que... pour eux, la Terre était là, et puis les planètes comme ceci. D'accord ? Ça, c'est le modèle dominant de la cosmologie grecque. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'en réalité, la Terre est là et les autres planètes sont là. Et donc, l'effet rétrograde est lié au fait que la Terre avance plus vite et donc, à un certain moment, la planète se trouve derrière et puis la planète rattrape son retard, etc. Bon. Alors, pour expliquer ça, ils avaient un modèle parfaitement cohérent qui est ce qu'on appelle le modèle des épicycles. Donc, en fait, pour expliquer qu'il peut y avoir des mouvements qui ne sont pas circulaires, et ça les embêtait beaucoup, parce que pour les Grecs, les cieux, c'est divin. La preuve, c'est que c'est Mars, Vénus, enfin, ce sont des divinités. Donc le cosmos n'est pas le même que notre cosmos à nous. Ça, vous avez probablement vu quelque part, même pour Saint Thomas, encore au Moyen-Âge, ce qui est au-delà de la Lune, c'est quelque chose de très spécial, justement, dans lequel justement, il faisait intervenir les anges, etc., pour pousser les planètes. Bon. Mais donc le cosmos au-delà de la Lune est spécial. D'accord ? Nous, on n'a plus cette conception-là, évidemment. Bon. Alors, si c'est au-delà de la Lune, c'est divin, les figures doivent être parfaites. Or, il y a une seule figure parfaite, c'est le cercle. Donc, toute explication du monde au-dessus de la Lune doit être circulaire. Alors, comment se fait-il que des mouvements ne soient pas circulaires ? Ça, c'est une crise dans l'astronomie grecque. Et la réponse des astronomes grecs, c'est, il y a des mouvements circulaires qui produisent des mouvements non circulaires. Et comment fait-on ça ? Il suffit de mettre sur les orbites des planètes des cercles. Et quand vous mettez des cercles qui tournent sur des cercles, vous faites tourner un cercle sur un cercle. Eh bien, ce que vous obtenez, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec des cercles qui tournent sur des cercles, eh bien, vous obtenez ces belles figures, hein, quoi, des cardioïdes, des néphroïdes, enfin, ce qu'on appelle des épicycloïdes, puisque ce sont des choses qui sont obtenues par le mouvement de cercle au-dessus de cercle. D'accord ? Eh bien, ça, c'est un modèle qui, dans l'astronomie grecque, vous permet de rendre compte avec précision de toutes les variations dans les orbites des planètes. Et quand vous allez dans un musée et que vous regardez les anciens modèles du cosmos, vous avez souvent des sphères avec des sphères. Vous avez des sphères posées sur des sphères et tous ces modèles de sphères qui tournent les unes par rapport aux autres vous donnent tous les mouvements célestes. Les sphères armillaires dans les musées vous montrent ceci. Donc des cercles sur des cercles. Chez Aristote, il y a 52 cercles qui sont utilisés pour rendre compte de tous les mouvements planétaires. Alors ça, c'est un modèle parfaitement cohérent, mathématiquement, qui donne une précision très grande d'ailleurs, qui permet à l'astronomie grecque, qui n'a pas d'instrument, qui n'a que l'observation oculaire et quelques instruments très rudimentaires, ça donne d'excellentes précisions. Donc tout est cohérent. Ça vous permet de faire des prédictions fiables dans les limites de l'observation de l'œil, mais tout est faux. Parce que c'est parfaitement cohérent, c'est vérifié, mais c'est faux. Ça ne correspond à rien. Il n'y a pas de cercle qui tourne sur des cercles dans le cosmos. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée la grande cassure de la Renaissance, puisque à la Renaissance, on croyait encore, avant la Renaissance, que justement, il y avait ces sphères qui portaient les astres. Alors, on disait, oui, mais enfin, s'il y a des sphères qui portent des astres, comment se fait-il qu'on voit à travers ? Ah oui, mais Dieu les a faites transparentes. Voyez ? Alors, le gros problème de l'astronomie de la Renaissance, c'est que dès qu'on observe des comètes, on s'aperçoit que les trajectoires des comètes ne sont cohérentes que si on suppose qu'elles traversent le champ des planètes. Mais comment traversent-elles sans casser les sphères cristallines ? Et c'est là où le système cosmologique médiéval et antique éclate au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire qu'on découvre que ces sphères des sphères n'existent pas. Voyez ? Donc il faut se méfier de la cohérence. Tout ce qui est vrai doit être cohérent, ça c'est tout à fait correct, mais ce qui est cohérent peut être parfaitement cohérent, comme mon histoire des anges lumineux qui se précipitent dans les tuyaux. C'est parfaitement cohérent de dire que quand je coupe le robinet, il n'y a plus de lumière. Et quand j'ouvre le robinet, il y a de la lumière. C'est cohérent, mais c'est faux. D'accord ? Oui.
À un moment, il y a une incohérence. Vous avez pas pu montrer que les anges lumineux sont à l'intérieur.
Mais ça, c'est pas une question. Non, mais ça, c'est pas une question d'incohérence, c'est une question d'observation. Ça veut dire que le modèle cohérent n'a pas de prédictions vérifiées. Parce que si on regarde le modèle, on va dire il faut prouver que c'est un robinet, qu'à l'intérieur il y a un flux. Mais ça, ce n'est pas une incohérence de la théorie, c'est une non-vérification de la théorie. Donc il faut distinguer la cohérence du modèle des prédictions, de la vérification des prédictions. D'accord ? Un modèle peut être incohérent, ok ? Par exemple, si j'avais dit ce sont des anges lumineux qui ne sont pas des anges lumineux, ça c'est une théorie proprement inconsistante. Bon. Mais la théorie peut être consistante, même mathématiquement, parfaitement, logiquement construite, mais ce sont les prédictions qui ne sont pas justes. Ici, par exemple, ce modèle-là est parfaitement cohérent, mathématiquement. Seulement, ce qui n'est pas vérifié, c'est l'existence des objets que la théorie véhicule. Ça, c'est un peu différent. D'accord ?